Radio Libertaire 89.4.
La radio de la Fédération anarchiste, la voix sans Dieu ni maître.
Pour nous soutenir financièrement, on a toujours besoin de vous pour continuer d'émettre. Et renouveler le matos, par exemple.
Vous pouvez télécharger un bon de souscription pour soutenir votre radio sur le site de la Fédération anarchiste.
Et qui est bien sûr modulable selon vos moyens.
Ta radio, tu l'aimes ?
Alors tu la soutiens.
Pour télécharger votre bon de souscription à Radio Libertaire, rendez-vous sur le site rl.fédération-anarchiste.org.
Bonjour des cailloux dans l'engrenage. Eh oui, nous sommes le quatrième mercredi du mois. Eh bien, c'est une exception. Nous avons une invitée pour cette émission hybride numéro 13, Isabelle Caillard. Bonjour Isabelle.
Bonjour Florence.
Et nous sommes donc le 28 décembre 2022 et cet indicatif d'entrée, est-ce que tu as reconnu Isabelle ?
Oui, bien sûr, c'est les petits loups du jazz. Le son de ces petits loups, c'est les chanteurs de la chorale de mon frère Olivier Caillard, les petits loups du jazz, qui est devenu très très connu depuis un certain nombre d'années. Ça fait presque 20 ans maintenant.
Et je mets très souvent ces cris, ces rires, parce que, enfin, bien 3-4 fois par an, je l'intègre à une émission parce que ça m'amuse beaucoup. Je trouve que c'est une belle réussite. Alors, voici le programme de l'émission, qui est une émission hybride, donc exceptionnelle. Des cailloux dans l'engrenage, l'enfance, poil à gratter. C'est pour la fin de l'année, hein, c'est notre fête de passage à 2023, notre fête pour nous et pour les auditeurs. Tu es donc invitée en direct, tu es violoniste et tu vas nous raconter ton parcours. Ensuite, le label Enfance et Musique et ensuite les petits loups du jazz. Enfin, pas tout parce qu'il faudrait 3 jours, mais nous n'avons que 2 heures, c'est déjà bien. Pourquoi l'être humain a besoin de musique ? Et les enfants aussi. Voilà, je vais te poser cette question aussi. Comment la musique pourra-t-elle contribuer à changer le monde ? Et oui, nous sommes sur Radio Libertaire. Et il y aura 2 lectures. Il n'y a pas d'âge pour philosopher d'Edwige Chirouté, illustration Olam Perrier. C'est paru en 2018 aux éditions L'Initiale. Et une autre lecture qui est très en lien avec la musique, mais l'autre aussi, la philo, est en lien avec nos questionnements. Bonogong de Mauge et Dwigi, c'est paru en 2022 aux éditions Helvetica. Alors, le CD, eh bien, c'est toi qui les as choisis. Nous avons travaillé une après-midi pour choisir les chansons et tu as carte blanche et donc tout est prêt. Les indicatifs sont les petits loups du jazz. Il y aura aussi les rires des petits loups du jazz et d'anciens petits loups, l'indicatif de fin qui sera Abraham Réunion. Et alors, tout de suite... Les rires, c'est beaucoup plus court là. Ils sont enroués. Voilà, c'est fini pour les rires enroués des petits loups du jazz. Alors, qui es-tu, Isabelle Caillard ? Alors, je vais oublier plein de tes casquettes. Tu as une somme de chapeaux sur la tête, ça se voit pas là. Tu es violoniste, tu es comédienne de formation, tu es chanteuse, compositrice, tu enseignes la musique, tu es productrice de disques, tu as fait quelques spectacles musicaux pour les enfants et j'en oublie très certainement.
Alors, mon parcours. Alors déjà, pour situer qui je suis, j'ai 66 ans, donc j'ai une carrière derrière moi. Je suis à la retraite, mais je continue à travailler parce que pour moi, c'est très important de continuer à œuvrer pour la musique, justement. Et donc, je continue à être surtout une enseignante du violon. J'ai ma propre école qui s'appelle Le Violon d'Ingres à Bagnolet dans ma maison. Et je continue à enseigner. Je suis spécialisée pour les tout-petits. J'enseigne à partir de l'âge de 4 ans. C'est la méthode Suzuki que j'ai étudiée. Et puis et aussi d'autres pédagogies que j'ai mélangées. Enfin, j'ai ma propre façon de faire avec 40 ans d'expérience. J'ai beaucoup fréquenté des pédagogues qui m'ont permis d'évoluer aussi, toujours faire des recherches par rapport à la relation aussi à l'enfant. Parce que j'estime qu'on a de plus en plus à avoir un langage, de plus en plus permettre aux enfants de se développer et d'être moins des enseignants qui avons avec des « il faut »,« tu dois », »,« si tu n'as pas travaillé, c'est pas bon », mais au contraire essayer de garder au maximum le plaisir. Et donc en tant qu'enseignant, c'est pas toujours facile de d'aider l'enfant à trouver de la joie et aux parents de trouver les moyens de les faire travailler sans que ce soit du travail, en fait. Voilà. Donc les mots sont toujours à rechercher. Donc moi, j'ai fait aussi de la formation, ce qu'on appelle la CNV, communication non violente, parce que je voulais justement essayer de transformer aussi ma façon de parler. Qu'est-ce que je peux dire donc de mon parcours? Donc moi, j'ai quitté très tôt l'école avec l'époque de mai 68. C'était beaucoup de changements qui ont fait que j'ai quitté l'école très tôt, en fin de troisième. Et je me suis mise au théâtre en fait à l'âge de 17 ans. Donc en fait, j'ai pas eu de formation vraiment. Je faisais du théâtre amateur. Et entre l'âge de 17 et 20 ans, j'ai été professionnelle. Mais c'est un peu un coup de chance, des rencontres incroyables, puisque j'ai joué au Théâtre de la Ville à l'âge de 17 ans, devant 1000 personnes tous les soirs, dans une pièce qui s'appelait La Noce chez les petits bourgeois, et c'était l'équipe de Jean-Pierre Vincent. Donc j'ai vraiment eu cette chance de rencontrer des gens de très haut niveau dans le milieu professionnel du théâtre. Malheureusement, ça s'est arrêté après avoir fait un film avec René Ferret. Donc j'espérais bien continuer aussi au cinéma. J'étais à Cannes et bon, c'était vraiment, pour moi c'est des souvenirs inoubliables. Et après, je n'ai pas été capable finalement de continuer cette carrière. Il n'y avait pas tous les réseaux sociaux, il n'y avait pas... Il fallait être avec son book, il fallait aller rencontrer les gens et j'étais finalement assez timide. Je pense que j'ai eu un coup de chance, en fait, et ça m'a marqué. Et puis, comme ma famille est plutôt dans la musique, donc mon père est un chef de chœur renommé, Philippe Caillard, qui a 15 prix du disque chez Erato, donc spécialisé dans le chant choral et la direction de chœur. Il était professeur de direction de chœur à la faculté de Vincennes et à Saint-Denis après. Mais il a été détaché du ministère de Jeunesse et Sport, donc en fait, il avait la liberté de faire ce qu'il voulait. Il enseignait en fait le chant choral et la direction de chant. Donc c'est vrai que naturellement, la musique était très très importante dans notre famille. On est une famille de 5 enfants. Et donc moi, j'ai toujours baigné, en fait, les répétitions de mon père se passaient chez nous, dans l'appartement qu'on avait boulevard Beaumarchais, et donc on était dans la musique en permanence. Après, mon père n'était pas très présent au niveau de l'éducation de ses enfants. C'était surtout ma mère qui s'occupait de nous, comme à l'époque, beaucoup de femmes. Elle avait le rôle de femme au foyer. Et ma mère chantait, elle était dans la chorale de mon père, et elle n'était pas particulièrement musicienne. Mais venant d'une famille bourgeoise, elle avait fait du piano, elle avait eu une éducation quand même, elle avait fait des grandes écoles, voilà. Donc elle est devenue sur le tard d'ailleurs institutrice et à 45 ans et elle a créé une crèche parentale, les premières crèches parentales dans les années 70 je crois. Et donc moi on a eu aussi une crèche dans l'appartement, donc les petits-enfants je les connais. Et donc, du coup, c'est vrai que la musique et l'envie d'enseigner aussi, c'était quelque chose qui était assez important dans notre famille. Donc, finalement, la transmission était quelque chose qui me traversait beaucoup. Donc, le théâtre, c'était quelque chose que j'avais fait un peu original par rapport dans ma famille. Mais je n'ai pas eu la volonté et la force de persévérer dans quelque chose qui était encore un monde qui, finalement, que je ne maîtrisais pas très bien. Il aurait fallu qu'à ce moment-là, je rentre dans une école, chose que je n'ai pas pu faire parce que mes parents n'avaient pas les moyens forcément de me payer une grande école de théâtre. Enfin bref, on était cinq, j'étais la troisième, il y avait mes petits frères derrière. Enfin bref, j'ai dû me débrouiller très très tôt. En fait, j'ai gagné ma vie depuis l'âge de 17 ans. J'ai jamais été aidée pour mes études ou quoi. Donc finalement, j'ai été formée en musique classique. J'ai fait du violon au conservatoire du 10e. Après, j'ai arrêté assez tôt. J'étais un peu une révoltée à l'âge de 14 ans. Avec les mai 68, je devais avoir 12-13 ans. Donc, la musique classique, je me disais, c'est pas intéressant, c'est ringard. je voudrais faire du folk. Alors, j'allais dans les festivals de folk. Enfin, pour moi, j'avais vu Woodstock. Donc, moi, j'étais un peu une rêveuse. Je suis partie sur les routes avec les copains, avec la tante, etc., avec des profs de fac. Des gens qui avaient 30 ans, j'en avais 14, quoi. Donc c'était vraiment une époque, hein. Mais des expériences inoubliables. Et puis j'avais mon frère qui était en fac, justement mon frère Marc Caillard qui a créé Enfance et Musique. Lui, il était à la faculté de Vincennes en musicologie. Et donc, je le suivais à la fac. J'allais dans des cours. J'étais pas du tout inscrite à la fac, mais bon, j'allais voir les cours de jazz, j'allais voir les cours de musique contemporaine, les expérimentations. C'était assez.
C'était une grande aventure, la fac de Vincennes.
La fac de Vincennes. Et j'ai appris d'ailleurs hier par mon frère, je savais pas que la faculté de Vincennes a été détruite, au point que même les bâtiments ont été. Cassé. Alors ça, je ne sais pas.
J'ai vu un film là-dessus.
Oui, il paraît qu'il y a un film.
Je l'ai vu.
Ça a été carrément détruit sous Chirac. Non, Chirac.
Je ne m'en rappelle plus.
Enfin,
mais...
Bref, ça a été détruit. Donc, comme s'il fallait détruire cette période de remise en question très, très importante à l'époque. Culturellement et voilà. Donc je continue mon parcours, donc j'ai fait du théâtre. Après, donc je me suis mise à l'enseignement, j'avais une vingtaine d'années. Comme j'avais pas des diplômes en tant que violoniste, j'avais juste un fin d'études, donc j'étais pas non plus très très avancée en violon, étant donné que j'avais fait du théâtre. Donc je faisais du violon dans le théâtre aussi, j'utilisais mes compétences musicales, mais pas à un haut niveau, je faisais trois notes. Enfin, c'était un petit plus pour me permettre aussi de m'introduire dans le milieu. Et puis bon, après le théâtre, j'ai donc repris des études de violon. J'avais 20 ans, j'ai refait des stages. Je me suis dit, oh là là, il faut absolument que je persévère dans la musique puisque je n'ai pas d'autre choix que de faire ça. Je n'avais pas de diplôme sortant de l'école avec le BEPC. Je n'avais pas beaucoup de ressources. Et finalement, je me suis formée donc, à la méthode Suzuki, qui est une méthode, c'est un peu marginale.
Je ne connais pas, tu peux brièvement expliquer.
C'est une méthode d'un japonais.
Oui, ça, voilà.
Qui a introduit le violon au Japon, alors dans les années 50, si je ne me trompe pas. Il a introduit le violon au Japon et il a permis à des centaines d'enfants d'apprendre le violon, alors que ça n'existait pas au Japon. Il jouait du koto, mais il ne jouait pas du violon. Et lui, il a fait des études en Allemagne et son père fabriquait... Qu'est-ce qu'il fabriquait ? Il était fabricant d'un instrument qui était japonais et finalement il est devenu fabricant de violon. Enfin bon, ce fameux Shinichi Suzuki, parce que son prénom. Et donc c'est une méthode pour apprendre les enfants à partir de l'âge de 3 ans et demi, 4 ans. Et l'idée c'était que ça soit les mères qui aident leur enfant à apprendre le violon par l'imitation. Il disait qu'on apprend à parler avant d'écrire, on apprend la musique en faisant et non pas en lisant des notes. Et donc, c'était vraiment la transmission. Donc, il transmettait aux mamans qui devaient transmettre aux enfants. Et donc, il y avait une pratique très, très, très précise de ce qu'il fallait faire à la maison. Et c'était donc le trio prof, maman et enfant. Et donc, les parents étaient très, très... On demandait aux parents d'être très impliqués. Et moi, j'ai trouvé ça intéressant parce que je pensais justement que, qu'un enfant de 3-4 ans, on lui dit, est-ce que tu veux faire du violon? Il fait, oui, non, bah, je ne sais pas, oui, pourquoi pas. Donc, en fait, les enfants, ils ne sont pas très fixés parfois sur ce qu'ils ont envie de faire. Parfois, oui, ils peuvent l'être, c'est rarissime, mais il y en a hein, qui disent, je veux faire de la trompette, on ne sait pas d'où ça sort, et puis ils insistent pendant des années. Voilà, mais beaucoup d'enfants ne savent pas, et c'est juste qu'on leur propose, et puis l'enfant dispose. Mais c'est vrai qu'une fois que l'enfant il a dit oui, ok, super et tout. Mais après, à 4 ans, on n'est pas très conscient de ce que ça représente comme travail au quotidien. Et l'enfant, lui, il pense que il va savoir jouer comme ça très facilement, sans effort. Et donc, tout est dans le jeu d'arriver à communiquer à l'enfant cette envie de jouer, mais de jouer, quoi. C'est vraiment le terme jouer. Ça veut dire s'amuser. Et donc, on demande aux parents de faire eux-mêmes des rudiments de violon pour que l'enfant, quand il voit que le parent, il fait le geste, l'enfant prend le violon de son parent, de sa mère, dit « Moi, c'est mon tour !» C'est-à-dire vraiment les faire tomber dans la marmite, quoi. Et si le parent n'a pas de motivation pour la musique, l'enfant n'en aura pas, en fait. Tout va ensemble. C'est comme, et pour en venir aussi aux comptines, puisque je parlerai aussi du label d'Enfance et Musique et le rôle que mon frère a eu dans le milieu de la petite enfance, c'est que il s'agit de, pour que l'enfant il ait le rythme, il faut le bercer dans les bras. Si on peut pas taper un enfant qui sait pas taper des mains sur une musique, ça veut dire que le parent n'a pas été capable de taper dans les mains pour lui faire sentir le rythme. C'est du senti. Et donc ça se communique physiquement. Les parents qui viennent me voir en disant « Oh, mais je connais rien à la musique », j'ai dit « Mais vous savez taper dans les mains quand vous entendez une musique ?» Je ne vous demande pas plus que ça, en fait. C'est d'apprendre avec votre enfant et d'avoir confiance que la musique, vous savez autant qu'un petit 4 ans. Donc, mettez-vous au niveau de votre enfant et puis vous allez apprendre avec lui. Donc c'est aussi donner confiance aux parents qui croient que la musique, c'est quelque chose de difficile, qu'il faut avoir été formé, alors qu'en fait, en fin de compte, tout le monde a besoin de musique, tout le monde a besoin de danser. Et si on danse, on tape dans les mains, on comprend la nécessité de la musique. Et donc j'ai me suis formée avec un certain monsieur Letourneau qui était canadien et qui avait, lui, été formé par Suzuki. Et donc j'ai commencé très tôt une association qui s'appelait à l'époque les Vivaldistes. Et on était une dizaine de copines violonistes et on a fait une association. Et donc on avait chacune c'est complètement privé. Chacune en avait nos élèves et on se retrouvait en fait une fois par mois, on faisait des cours collectifs par niveau et on choisissait du répertoire et on faisait des concerts trois fois par an, on réunissait des centaines d'enfants sur scène. Après, l'enseignement il a un petit peu changé parce que moi j'ai voulu me former à l'âge de 28 ans, je suis partie à Berklee School aux États-Unis. J'ai mis des années en fait pour pouvoir partir parce que j'avais été formée en musique classique, mais moi j'étais très attirée par le folk, la musique brésilienne, le jazz. Et mon petit frère Olivier Caillard, qui est donc celui qui a créé les Petits Loups du jazz, il était pianiste de jazz. Donc ma sœur aînée est claveciniste, elle est passée par le CNSM. Donc ma sœur aînée, c'est la musique classique. Mon frère Marc était flûtiste, il a failli faire le CNSM et finalement il a créé Enfance et Musique. Donc moi j'arrivais violoniste, mon frère en dessous il était violoncelliste, il a créé le label, il s'est occupé de la distribution du label Enfance et Musique plus tard. Mais enfin on était tous dans la musique et moi donc... et mon petit frère Olivier, donc pianiste de jazz. Donc j'étais attirée par ce que faisait plutôt mon petit frère en fait. J'aimais plus la musique de jazz que le classique. Et donc, comme je gagnais ma vie, j'étais prof, c'était très difficile pour moi de faire des études de jazz parce qu'il n'y avait rien à Paris. Il fallait être autodidacte. À l'époque, il n'y avait pas d'école. Voilà. Et donc, je suis rentrée dans la première école de jazz qui s'appelle le CIM, qui existe depuis des années. Mmh. Je crois qu'elle a disparu dernièrement, je me semble. Mais le CIM, voilà. Mais c'était encore pas encore très bien organisé, cette école. Et j'ai rencontré un bassiste qui m'a dit « Mais non, de toute façon, tu n'apprendras qu'aux États-Unis. » Donc, j'ai mis des années à réunir de l'argent, à me dire je veux partir à un moment donné et d'arrêter d'enseigner et de faire une sorte d'année sabbatique pour partir aux États-Unis. Mais j'étais aussi intermittente du spectacle parallèlement à l'enseignement parce que j'avais fait du théâtre. Je faisais des concerts avec ma sœur en musique médiévale et musique baroque. Donc, j'étais quand même sur scène à l'époque. Mais c'était quand même l'enseignement, mon activité principale. Et ben voilà, finalement, en étant intermittente, j'ai fini par réussir à profiter d'une année où j'étais au chômage. Et je suis partie un an aux États-Unis pour faire des études en douce, j'allais dire presque, parce que voilà, c'était pas trop difficile à l'époque de faire ce genre de truc. Et j'ai donc passé un an aux États-Unis pour faire des études de jazz. Mais j'avais déjà été formée quand même aussi, j'avais des bases. Mais malheureusement, n'ayant pas un niveau de violon très élevé, rentrant de Berklee School, je n'ai pas pu faire la carrière de violoniste. Donc, ça, c'est resté quand même quelque chose qui est une frustration encore aujourd'hui, de ne pas avoir été plus loin en musique, en tant que violoniste. Et donc, je n'ai eu de cesse, tout en étant enseignante, je n'ai eu de cesse de continuer à me former. Donc, toutes les écoles de jazz qui ouvraient, j'étais la première à y rentrer, en fait. Donc, ça a été l'IACP, ça a été le premier conservatoire qui a ouvert une classe de violon jazz, c'était Pierre Blanchard au conservatoire d'Aubervilliers-la-Courneuve. J'étais la première à m'inscrire. Après, il y a eu l'école Le Coude. J'avais 45 ans. J'ai passé 2 ans à l'école Le Coude, tout en enseignant et en ayant 3 enfants. Il fallait toujours que je sois dans les écoles, déjà parce que je voulais voir comment les autres... au niveau de la pédagogie, comment ils se débrouillaient. Là, c'était plus des adultes, mais moi, j'enseignais aux enfants, mais j'étais intéressée de savoir comment ils enseignaient. Et puis, pour mon plaisir d'être élève, j'ai fait toutes ces écoles. Et j'ai fait aussi de la musique brésilienne. Donc, j'ai été à l'école de Choro de Paris. J'ai été dans des tas de stages de musique vénézuélienne. J'ai beaucoup d'amis vénézuéliens maintenant qui sont des spécialistes en musique vénézuélienne. Donc, ça va aussi avec le fait que je suis enseignante. C'est-à-dire que j'ai besoin d'apporter toujours des choses nouvelles aussi à mes élèves, parce que je n'enseigne pas qu'à des petites 4 ans. J'ai aussi des élèves qui sont plus avancés. Mais enfin, en gros, je les ai jusqu'à l'âge de 12, 13, 14 ans, étant donné qu'après, en général, ils veulent aller dans des structures comme les conservatoires, avoir des diplômes, faire le solfège, etc. J'ai pas d'enfants très âgés, quoi.
On va faire une petite pause. Enfin, c'est pas une pause, c'est vraiment le fondement de l'émission. Avec un CD de 1998 qui s'appelle Enfantille. Tu en parleras après le premier titre. On mettra ensuite un autre titre. Et ce ne sont pas des rythmes vénézuéliens ni brésiliens, mais ce sont des rythmes antillais. Et nous avons choisi toutes les deux. Il y a le téléphone qui sonne. Non, ne téléphonez pas encore, puisque ça n'est pas encore la musique. Quand je parle, je ne peux pas répondre au téléphone. Ça me déstabilise ce téléphone. Alors, oui, parce que toi, tu n'es pas au courant, mais il y a une lumière qu'on a dans les yeux. Ça sera le repas de Noël parce que, à cause de Noël, Enfantille, 1998. Et c'est très joyeux.
C'est Noël, tu sais, tu vois le cochon là-bas.
On l'a acheté à la boucherie.
La boucherie.
Non, la boucherie d'en face là-bas.
Waouh, wow. Il est aux abois, il a trop peur.
En plus, il est bien gros, ça va être vachement fort.
Oh, regarde, regarde.
Et bois du bois, il y avait du café Noël. Encore la rire. Et fait diri.
Aucune idée.
Et bois du bois. Du café Noël. Encore la rire. Et fait diri. Et bois du bois.
Il laisse pas de message.
Manger du cochon.
Oui, la bonne musique.
Oh, bien sûr.
Allez, dansons. Déjà, allez.
Dansons, dansons.
Ouais. Il laisse pas de message.
Ouais, c'est génial. Tiens, Méliane, mon club de moi qui arrive est en trop tard. Oh, comme ils ont grandi.
Allez, dansons, dansons avec lui, hein.
Allez,
on est content parce que tous les ans ça recommence.
Ouais,
c'est un moment génial pour nous. Et oui, chaque année c'est comme ça, danser, manger, jouer de la musique. Ouais,
tout le monde est gentil, tout le monde est content à Noël. Ah, c'est génial. C'est dommage parce que tous les enfants dansent, mais les adultes ne dansent pas vraiment.
Oh bon, merci.
C'est un disque d'Harold Abraham et tu es la directrice artistique, c'est ça ?
C'est ça. Donc Harold Abraham, c'est mon conjoint, mon ex-conjoint. J'ai vécu 32 ans avec lui. Nous sommes tous les deux musiciens. Il est pianiste de jazz et c'est donc le père de mes trois enfants. Et donc, ce premier album que nous avons fait, c'est donc autour de la musique antillaise puisque Harold est d'origine de la Guadeloupe. Et donc, mon frère Marc ayant le label Enfance et Musique, label de disque, ben, je lui ai proposé qu'on fasse tout un travail autour des comptines antillaises. Donc, j'ai fait le travail de recherche et c'est Harold qui a fait tous les arrangements. Je me suis occupée pas mal aussi de faire chanter les enfants. Et j'ai joué du violon, mais voilà, c'était principalement Harold qui avait le plus le rôle de faire tout le travail d'arrangement. Et moi, j'ai fait le travail de recherche quand même. Et puis surtout d'organisation. Donc, j'étais vraiment la directrice artistique du projet. Donc, ça, c'était notre premier album en 98. Et ensuite, je parle des autres albums que j'ai fait.
Alors, peut-être pas tout de suite. Enfin, tu peux parler de l'autre, mais on va encore passer à un morceau qui s'appelle
Coulouébois.
Coulouébois. Alors, tu peux en parler de ce titre-là.
Alors, Coulouébois. Là, c'est en
créole.
Créole guadeloupéen. Et c'est le waka. C'est une façon de chanter avec le souffle. Et j'avais trouvé très important auprès d'Harold qui trouvait que c'était bah oui, c'est une tradition antillaise, mais enfin bon, ça lui semblait tellement normal que ça lui semblait pas important de le mettre dans un disque pour enfants. Et moi, je lui ai dit non, c'est très très important parce que c'est vraiment la tradition. Vous allez tout de suite comprendre quand vous allez entendre que c'est vraiment très particulier cette façon de chanter. Et là, en l'occurrence, cette chanson, bah, ça raconte finalement les tempêtes incroyables. Et donc après, il faut reconstruire. Donc clouer bois, ça veut dire clouer le bois. Donc c'est un chant pour se donner du courage, pour refabriquer les maisons en bois après les ouragans, quoi. Et en tout cas, ce disque antillais, on a voulu qu'il y ait à la fois du français et du créole. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y avait des sortes de traductions à l'intérieur des chansons de façon à ce que ça puisse s'adresser à tout le monde.
Eh bien, on va écouter.
David passé, casa papa tombé, maman qu'a pleuré, papa Jacha et moi, Jacha et Tol, Jacha et Planche de Cochiclou, Ika et Couloué,
Couloué, Couloué,
Couloué,
Couloué, Couloué,
Couloué,
Couloué, Couloué,
Couloué, Couloué, Couloué,
Couloué,
Couloué,
papa.
makembe, bo makembe, bo loué, Casa papa, maman j'a pleuré, maman j'a consolé. Monsieur David, commandez au pardon, pardon. Pas vite comme ça, rasez casa papa, ou papa couloué. Couloué, Zachary, Gabi, Tonya, Nawel, Cynthia, Ekelia.
C'est super, c'est trop petit ce studio pour danser, mais ça me démangeait.
C'est la percussion à la voix, quoi.
Pour continuer dans cet esprit, il y a un livre qui vient de paraître de Mouge et Dwigi. Alors moi, je ne connaissais pas ces auteurs, qui s'appelle Bonogong et qui vient de paraître aux éditions Helvétique. Il y a du nouveau dans la forêt des tatous. Les musiciens découvrent que leurs instruments ne sont pas les seuls à résonner dans les environs. Une histoire en musique dans un théâtre de papier. Alors évidemment, ce que je vais vous dire, ça ne va pas être en musique et ça sera très triste par rapport à la réalité de l'album. Ça sera aux enfants de le faire quand s'ils se procurent l'album. Alors, je commence. Dans une forêt lointaine, deux tatous vivaient depuis toujours au rythme de leurs instruments. Tatou, touta, tatou, touta. Quand un jour arriva un chat au son étrange et inconnu. Tcha, 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 tcha. Non, non et non, s'écrièrent les tatous, pas de ce tintamarre chez nous. Et ils chassèrent le chat. Ils se remirent à jouer, tatou, touta, tatou, touta. Alors approcha une mouette au son bizarre et farfelu. Mouette ! Et là, on voit une trompette sur l'image. Ah non, non, non et non, braillèrent les tatous, pas de ce tapage chez nous. Et ils renvoyèrent la mouette. Ils se remirent à jouer. Tatou, touta, tatou, touta. Puis vint un dugong au son curieux et malvenu. Du gong, du gong. Non, non et non, s'exclamèrent les tatous, pas de ce boucan chez nous. Et ils repoussèrent le dugong. Ils se remirent à jouer. Tatou, touta, tatou, touta. Soudain, surgit un bonobo au son loufoque et saugrenu. Bonobo, bonobo, bobo, bonobo, bonobo, bobo. Non, non et non, hurlèrent les tatous, pas de ce ramdam chez nous. Ils congédièrent le bonobo. Ils se remirent à jouer quand il se fit entendre un air gai et mélodieux. Ils s'enfoncèrent dans la forêt pour s'en approcher, plus loin, toujours plus loin, encore plus loin, jusqu'à découvrir d'où venait cet air joyeux. Tcha du gong wet, bono tcha mu gong, mu bono wet, tcha tcha bono gong. Et là, Je suis obligée de vous raconter un peu les images. Au début, tout était gris et puis chaque animal avait une couleur. Et au fur et à mesure que les deux tatous s'enfoncent dans la forêt n'est plus grise, elle est de plus en plus verte. Et on voit là une grande rigolade, le singe, le gong, la trompette et puis les maracas du chat. Voilà le plus merveilleux brouhaha jamais entendu, dirent les tatous. Quelle harmonie, quelle symphonie, nous ne l'aurions jamais cru. Et ils se remirent à jouer. Lorsqu'une truie s'avança et demanda « Il y a de la place pour moi ?» Et alors là, tous les bruits de la musique, je ne vous les refais pas, les enfants s'amuseront à le faire. Parce que en plus, le cochon joue de la harpe et arrive un cheval qui joue du triangle, un paon qui joue du vibraphone, un lièvre qui joue du piano, enfin, et puis un autre paon qui joue du tambourin, un lion qui joue de la guitare, enfin, etc. Il y en a, et puis un drôle de petit animal qui joue de l'harmonica. Bref. Toute la forêt accourt pour jouer de la musique. Non loin de là, une femme s'écria « Non, non et non, mon époux, pas de ce tohu-bohu chez nous !» Guidé par le raffut, l'homme débusqua les malotrus. Mais en moins de temps qu'il n'en faut pour se disputer, tout le monde se remit à jouer et à danser. Tcha-tcha-gong, da-da-da-da, etc. Énervée par ce fracas, la femme déboula bien vite. Alors imaginez que les deux personnages sont gris de nouveau. Qui peut dire ce qui se passa ensuite ? Eh bien, l'histoire ne le dit pas. Et elle est terminée. C'est une histoire vraiment très originale. Là, on va passer Tisosio des Comptines et ça va être pour passer le Rhône.
Pour passer le Rhône, il faut être deux. Pour bien le passer, il faut savoir danser.
Allons, passe, passe, passe. Allons, passe donc. Allons, passe, passe, passe. Allons, passe donc.
Pour passer le Rhône, il faut être quatre. Pour bien le passer, il faut savoir danser.
Allons, passe.
Passer le
Alors, ce disque est d'Isabelle Caillard, chanson et comptine. Et il date... Bah, c'est pas écrit.
Oui, et moi-même, je ne le sais plus exactement. Mais vu que Cocorello a été fait en 2003, celui-là a dû être fait dans les années 2000.
Et il est dit Isabelle Caillard, il y a un très beau livret avec des jolis dessins et puis toutes les paroles des chansons. C'est exactement le genre de disque que les enfants ont envie de suivre en écoutant. Et mon petit-fils a appris à lire avec ce genre de disque et de livret.
Oh, magnifique.
C'est vrai, hein, je
témoigne.
Oui. Alors, tu peux me raconter cette histoire, Tizzozio, c'est ton premier disque à toi, où il y a écrit Isabelle Caillard la pochette.
C'est mon premier disque, oui, en tant qu'Isabelle Caillard. Et d'ailleurs, les arrangements ont été faits également par Harold Abraham. Hein. On l'a fait ensemble, mais il a une grosse part d'arrangement. Et donc, c'est vraiment les comptines traditionnelles qui étaient... Enfin, le label Enfance et Musique, vraiment... promeut la tradition, utiliser vraiment les comptines pour les moderniser et les rendre plus audibles par les enfants d'aujourd'hui. Et donc il y a une qualité au niveau d'utiliser des instruments acoustiques, des enfants qui chantent, des adultes qui chantent, et aussi un peu des comptines inédites. On va creuser, on va faire des recherches. Voilà, Enfance et Musique a vraiment fait ce travail de recherche aussi. Et donc, moi, je me suis lancée là-dedans. C'était un peu une opportunité. Étant enseignante et aimant aussi donner des cours de violon, j'ai beaucoup utilisé les comptines aussi dans mon propre enseignement pour la musique. Donc, je faisais déjà des recherches aussi de mon côté. Et donc, j'ai proposé à mon frère, dans la lignée d'Enfance et Musique, de faire ce disque de comptines en version un peu latino, jazz latino, voilà. Alors que la vocation d'Enfance et Musique, au début, c'était les deux premiers albums qui étaient 75 chansons et comptines. Et à Tire-d'Aile, c'était relativement classique comme façon de faire. Bon, c'est que ce sont les deux albums à succès d'Enfance et Musique. Ils en ont vendu des milliers. Mais moi, je voulais proposer d'être dans des musiques plus syncopées. Et donc, j'ai transformé un peu tout ça, jazzifié.
C'est vraiment une musique de fête. Je trouve que cette émission-là, un peu hors nos émissions habituelles, qui s'adresse d'ailleurs aux adultes pour que tu expliques, et puis aux enfants aussi, par rapport à cette musique qui est autant appréciée par les parents que par les enfants.
Bien sûr, bien sûr. C'est sûr que là, on en a fait une salsa. Bon, c'était pas du tout ça au départ. Hein. Pour passer le Rhône, il faut être deux. Enfin, c'est des chansons à danser. Hein. C'est des rondes, tout simplement. Et puis on passe sous les bras des autres. Voilà, c'était des chansons, pas à geste, je sais pas comment on appelle ça, mais des chansons qui étaient des rondes. C'est des rondes. Et là, ça va être une salsa. Donc après, chacun de se débrouiller avec la musique pour danser à leur manière.
Exactement, c'est très créatif. Alors, tu as déjà répondu un peu à la question pourquoi l'être humain a besoin de musique pour grandir et pour vivre. Et puis, tu as déjà un peu répondu à la question, comment transmettre la musique? Est-ce que tu as d'autres choses à dire là-dessus?
Sur la transmission, oui, moi je pense que c'est vraiment important de permettre aux enfants, en dehors de l'école, d'avoir une activité artistique qui ne se borne pas seulement d'ailleurs à la musique. Ça peut être aussi le théâtre, la danse, tous les arts. Et c'est très important que l'enfant il puisse avoir accès le plus tôt possible. Et pour moi, j'enseigne la musique pas seulement classique, justement pour aussi que les enfants puissent avoir des musiques plus syncopées, pour pouvoir danser. Donc, c'est tout simplement la musique à la porte de la joie, de l'expression, des sentiments. Et je pense que voilà, c'est une musique, ça permet la sociabilisation, de partager ces moments avec d'autres personnes. J'ai même l'impression que ça peut remplacer la religion, en fait. C'est-à-dire que le fait d'être ensemble et de s'unir autour du plaisir du son et de la musique, je pense que c'est une manière d'apaiser les liens, d'apporter la paix au monde, en fait. C'est pas plus compliqué que ça. Et vaut mieux faire ça qu'autre chose, quoi.
Alors, c'est une façon d'essayer de changer le monde, alors?
Ben complètement. Je pense que si on permettait à beaucoup plus de personnes d'avoir accès à la musique, on aurait beaucoup moins d'enfants qui feraient des jeux. Enfin, les garçons, c'est quand même assez terrible de les voir devant les écrans et avec des jeux. Alors, il y a de la musique hein, pourtant, guerriers, derrière, oui, hein, oui. Et des sons, des trucs effrayants. Donc, la musique n'est pas forcément toujours utilisée à bon escient non plus. Hein. Il y a de la, comment on dit, la malbouffe et il y a la mauvaise musique.
Alors, voilà.
La mauvaise musique aussi. La musique qu'on a partout dans les. Qui nous envahissent dans les ascenseurs, dans les magasins, dans les métros, enfin partout. Et donc, ça empêche la parole. Par contre, là, ça va être au contraire un envahissement. Donc, la musique, c'est quelque chose qui se partage et avec, avec un respect de certains décibels aussi. Et moi, je trouve que la musique acoustique et la musique vivante, c'est-à-dire le spectacle vivant, doit être le plus possible, continuer d'exister. Et donc, c'est pour ça qu'il est important aussi par rapport aux enfants qu'il existe des spectacles musicaux pour les enfants adaptés et non pas la télé avec des chansons le divertissement qui est parfois un peu abétifiant et plutôt que d'apporter de la réflexion ou de la simplicité. Enfin, voilà, les comptines, ça a l'air bébête comme ça, hein, mais en fait, les enfants, c'est ça qui leur permet de grandir. Hein, c'est des choses très simples, en fait. Et chanter une petite comptine qui répète « Pour passer le Rhône, il faut être deux, puis après, il faut être quatre, il faut être six,
ils apprennent à parler
faut être
en
huit,
même temps.
Ils appellent à parler. Mmh. » Et puis voilà, c'est...
Ils apprennent à compter, c'est le
Ils
sens
apprennent à
de
compter,
la comptine.
Oui, c'est ça, ouais. Tout à fait.
Mais tu as parlé aussi tout au début de l'importance du corps dans la musique. La musique, ce n'est pas seulement l'audition.
Alors là, je vais revenir sur... alors là, c'est plutôt la musique. Pour moi, c'est important de la faire. Et parce que justement, c'est aussi un travail, enfin moi qui, en tant que prof de violon, je sais que c'est un engagement physique. On joue d'un instrument, on danse la musique, on danse quand on travaille le violon. Et moi, je travaille beaucoup sur le gestuel, sur la marche, sur les... D'ailleurs, il y a aussi une pédagogue extraordinaire en Suisse qui s'appelle, je ne sais plus comment, mais qui est au Conservatoire de Genève, et que son cours de violon, c'est des formations très approfondies, c'est musique et danse. C'est violon et danse. Donc, ils font des acrobaties physiquement tout en faisant du violon. Et moi, ça m'a beaucoup inspirée. J'ai relevé des trucs qu'ils ont fait. Ils faisaient du 11 temps avec les pieds, qui faisaient des trucs assez complexes. Et en même temps, ils jouaient le violon. Et je trouvais que cette coordination, ça permettait vraiment un développement cérébral de l'enfant extrêmement complexe. Et voilà, je pense que ça apporte énormément d'intelligence. Outre le fait que c'est très festif et on les voit qui s'amusent vraiment. Donc moi je fais beaucoup de choses comme ça dans mes spectacles aussi, où je fais marcher, je fais danser. Les tout petits, ils font sur le pont d'Avignon en même temps qu'ils font le violon, ils font un salut, après ils tournent sur eux-mêmes, etc. Donc tout ça fait que on apporte de la joie et du plaisir en plus de l'action de faire des sons.
Tu me rappelles Guem, le regretté Guem, qui lui venait d'Algérie et non pas des Antilles, qui apprenait, il donnait des cours en commençant par faire jouer avec les pieds avant de jouer de son tambour.
Ah oui, c'est ça, oui. Mmh. Ouais, ouais. Alors nous, on a beaucoup, avec Harold, donc mon mari, on faisait des stages de musique. On réunissait les enfants qui étaient chez nous et qui dormaient sur place, quoi. On avait une maison qui appartenait à ma mère à 50 km de Paris vers Pontoise. Et on faisait deux stages par an à peu près. Et là, on a justement permis aux enfants vraiment d'aller beaucoup plus loin avec la musique. Et Harold, il faisait les percussions. Donc, ils avaient des cours de ka. Le ka, c'est un instrument antillais.
Ouais.
Et puis, on faisait des claquettes, des cours de claquettes. Et donc la coordination avec les pieds et tout ça. Et mon frère Olivier Caillard, qui faisait chanter les enfants et créer des paroles avec eux, donc c'était les petits loups du jazz à l'intérieur de nos stages. Et moi, je faisais le violon et on a fait des stages où on avait des tout petits. Après, on a eu des plus grands aussi qui faisaient on faisait des stages vraiment de jazz. Donc moi, j'œuvre beaucoup depuis très longtemps à rentrer dans l'enseignement le jazz qui n'était pas encore dans les conservatoires. Donc, j'étais une précurseur à l'époque. C'est pour ça que j'étais un peu autonome, parce que je ne pouvais pas le faire dans un conservatoire. Je n'aurais pas eu l'occasion. Donc je l'ai fait justement en faisant ma propre école pour pouvoir enseigner la musique que j'aime. Et aussi parce que je trouvais que apprendre à un enfant de 8-9 ans à improviser, bah, c'est super important parce que ça lui donne une liberté par rapport à son instrument et ça lui donne de la créativité. Et donc moi j'enseigne toujours en disant voilà, moi j'ai écrit tel coup d'archet ou j'ai sur une musique classique, mais on peut faire autrement. Je trouve très important de ne pas avoir quelque chose de figé et que de toujours laisser des propositions de changer les choses et puis de jouer toutes sortes de musiques et puis bon, d'aller fouiller qu'est-ce qui existe sur YouTube et puis les enfants ils m'amènent des choses, oh, j'aimerais bien jouer telle chanson avec le violon, donc je me mets au service des enfants aussi pour répondre à leurs envies. Parce que qu'est-ce qui fait qu'on a envie de faire quelque chose, enfin, qu'on arrive à jouer? C'est vraiment parce qu'on en a envie. L'envie décuple la capacité. Ce qui semblerait difficile devient facile. C'est tout. Hein. C'est pas plus compliqué. C'est le désir qui est le plus fort, en fait. Et donc, moi, j'essaie toujours de pousser à ce que les enfants s'investissent.
Alors, ton deuxième disque... ou chansons et comptines Isabelle Caillard avec 4 F dans Télérama. Il s'appelle Cocorio, il date de 2003. Ce sont des rythmes brésiliens. Tu chantes et on va commencer par écouter à la volette. Ça, c'est vraiment du grand classique.
C'est un petit oiseau qui brise sa... un petit oiseau
qui prit sa volée,
qui prit sa
à la volette,
qui prit sa à la volette, qui prit sa volée,
qui prit sa volée,
il prit sa volée sur un... L'oiseau est tombé. Oh, mon petit oiseau, où t'es-tu blessé?
Je me suis cassé l'œil et le cou.
Oh, mon petit oiseau, veux-tu te soigner? Mon petit oiseau, veux-tu te soigner? Veux-tu te...
Marie.
Cocorio. Alors, nous sommes au Brésil et nous dansons la samba. Alors, parle-nous de ce deuxième disque de 2003.
Alors, je l'ai réalisé juste après avoir passé les 2 ans à l'école Oud, où je me suis rebranchée à fond dans la créativité. J'ai eu cette chance de prendre des cours avec Didier Lecoud, c'était merveilleux. Et donc, j'ai rencontré beaucoup de professionnels parmi les profs qui étaient de ma génération. Moi, j'avais 45 ans, j'étais au milieu de jeunes de 20 ans, 25 ans comme élève, et moi, j'étais un peu une des plus âgées. Mais alors, j'en ai vraiment profité et j'ai rencontré Carlos Werneck, qui était un prof qui avait intervenu, un Brésilien qui avait intervenu sur un cycle de 3 semaines sur la musique brésilienne. J'avais fait des ateliers et tout ça. Et donc, quand j'ai fini mes études au CMDL, je me suis empressée d'aller retrouver Carlos et de lui proposer de faire un projet avec moi d'arrangement façon brésilienne en utilisant les comptines. Donc, on a vraiment collaboré tous les deux. Et c'est un musicien qui est bassiste. Il a été bassiste de Tania Maria. Il vit à Paris. C'est un excellent bassiste, guitariste merveilleux. Enfin bon, voilà, il a tout fait dans le disque. Il a fait une partie des percussions, mais il y a eu un percussionniste en plus. Enfin voilà, on a vraiment travaillé tous les deux et d'une manière très orale. Bon, après, avec la comptine, c'est pas très compliqué de travailler oralement parce que c'est pas non plus des harmonies extrêmement complexes. Mais bon, il m'a beaucoup aidé quand même à harmoniser avec des jolis accords à la guitare. Bon, voilà, il a le feeling. Le feeling brésilien. Il y a d'ailleurs dans cet album le tout dernier morceau qui est où il a chanté une chanson, il a fait chanter aux enfants une chanson brésilienne sur le chat, un chat. Et il fait les percussions à la bouche et tout ça. Et j'ai gardé en fait une version extrêmement. C'était plutôt une version répétition qui était très joyeuse. Alors que on avait fait une répétition beaucoup plus sérieuse, on avait fait une version beaucoup plus sérieuse. Puis finalement, on est revenu à cette façon beaucoup plus spontanée qui avait été faite au départ. Et bon, là, on le passera pas, mais c'est.
Tu veux qu'on le passe ?
Ouais, bon, c'est la seule des derniers. Alors, parce que c'est court, c'est au gâteau.
Le numéro 18. Allez, on y va. C'est... Après, je raconte un livre et ensuite
comme
on écoutera.
Comme ça, on avait une idée de Carlos Werneck,
okay.
Qui a un très bon contact avec les enfants.
On y va.
Sérieuse là. Allez les filles.
Non, mais c'est adorable. Et nous allons, avant de passer l'autre titre au petit bois charmant, écouter Edwige Chirouté, Il n'y a pas d'âge pour philosopher, parce que se demander pourquoi on a besoin de musique, c'est de la philosophie. La préface est de Frédéric Lenoir, les illustrations sont d'Olympe Perrier et c'est édité en 2018 aux éditions L'Initiale. C'est une édition marseillaise. Edwige Chirouté a écrit en 2015 chez L'Harmattan, L'enfant, la littérature et la philosophie. Alors, c'est un très beau petit livre. Je ne vous lirai pas la préface parce que c'est un peu long, mais je vous conseille de vous procurer ce livre qui n'est pas sous forme de texte linéaire, mais où il y a des petites questions qui sont imbriquées dans les illustrations. Je commence. Les enfants, si on prend le temps de les écouter, posent des questions métaphysiques profondes et déroutantes, et ils les posent avec gravité. « Maman, est-ce que le premier homme avait une maman ?»« Papa, est-ce que Dieu a un Dieu ?»« Mamie, comment on sait qu'on est amoureux ?» Dans les ateliers de philosophie, il s'agit de réfléchir autour de grandes questions pour lesquelles même les grandes personnes n'ont pas vraiment de réponse.
<C'est clair. rire>
Comme la mort, la liberté, la justice, le beau. Et au fil de la philo, les grandes questions ont besoin de bonnes idées, pas de bonnes réponses. Amour. Sentiment, être amoureux, aimer quelqu'un, un animal, son doudou. Mes pensées me donnent des idées. Il faut définir les mots, interroger les expressions pour dépasser le stade des opinions et des préjugés. Dans l'atelier philo, chacun va pouvoir réfléchir et mettre à l'épreuve ses idées. On n'y dit pas tout ce que l'on pense, mais on pense tout ce que l'on dit. En philo, j'apprends à penser. Les ateliers philo permettent d'apprendre à réfléchir de façon rigoureuse et personnelle. Penser, ça s'apprend. Philosopher, ça s'apprend. Et là, on voit un beau dessin. Qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Ah. Bonjour Francis, qui est l'émission qui va venir un peu plus tard ?
Bonjour, je suis désolée.
Alors, oui, c'est Radio Libertaire, mais c'est à la bonne franquette, surtout pendant les vacances. Alors, il y a une marelle sur ce, sur la double page, les marelles qui commencent par la terre et qui finissent au ciel. On a un pied, puis les deux pieds. Tu te souviens de ça, Isabelle,
oui,
quand tu étais petite ?
Bien sûr.
Alors, tout en bas, ça commence par analyser. On saute une case. Et c'est critiquer. Ensuite, la case suivante, argumenter. Et puis, quand on a les deux pieds, c'est en même temps problématiser et écouter. Ensuite, un seul pied, confronter de nouveau les deux pieds, débattre, synthétiser. Et le ciel, c'est philosopher. Je trouve ça très bien vu. Page suivante, nous sommes rue des Écoles. Depuis le premier jour de la naissance, les parents accompagnent leurs enfants pour les aider à grandir et à penser le monde, le langage, la relation aux autres. Pardon. La culture, les rencontres lui permettent de se construire, de devenir un être libre, singulier et autonome. Et là, on voit le petit car scolaire qui s'appelle « Chemin de la pensée ». Les adultes sont là pour éclairer le chemin. Les écrivains éclairent aussi notre expérience du monde. La littérature invite à la pensée. On ne lit pas seulement pour s'évader du réel, mais bien au contraire pour lui donner du sens. La fiction éclaire notre réalité. L'imaginaire est un immense laboratoire pour commencer à penser. Les livres éclairent les enfants et les adultes. L'enfance. La littérature et la philosophie se rejoignent dans le même souci de saisir, de comprendre et de connaître le monde. La philosophie et la littérature nous offrent des pensées vivantes. Penser et imaginer rend plus fort, plus libre et peut-être même plus heureux. Et là, nous voyons plein d'enfants qui sont dans des montgolfières. C'est ce voyage qui amène chaque sujet, avec l'intelligence et la beauté, à se découvrir soi-même, à s'ouvrir aux autres. Toi aussi, connais-toi toi-même. Bienvenue en philosophie. Là, j'ai fini l'album et juste à la fin, il y a écrit « Cet album est destiné aux adultes et aux enfants qui souhaitent comprendre et pratiquer des ateliers à visée philosophique. Les uns pourront le lire aux autres et réciproquement, les commentaires de chacun sont les bienvenus. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur le blog http://, l'initiale sans apostrophe bien sûr, .unblog.fr. Schlass. Voilà, ce sont les grandes questions, les bonnes idées et les belles lectures qui suscitent beaucoup de discussions. Au Petit Bois Charmant, c'était le numéro 15. Je ne l'avais pas préparé. Voilà, on en a pour 2 minutes 31. C'est le disque Coco Rio.
On est à l'aise. On est content.
Au petit bois, au petit bois, au petit bois, petit bois charmant.
Petit bois charmant.
On est à l'aise.
Petit bois charmant.
On est content.
Une jeune fille va s'y promenant.
On est à l'aise.
Une jeune fille va s'y promenant. En fait autant. Ils se rencontrent en se saluant. Quand on y va, on est à l'aise. Ils se rencontrent en se saluant. Quand on y va, on est content. Ils s'assirent sur un banc. Quand on y va, on est à l'aise. Ils s'assirent sur un banc. Quand on y va, on est content. Ils se regardent tendrement. Quand on y va, on est à l'aise. Ils se regardent tendrement. Quand on y va, on est content. Se dire des mots charmants. Quand on y va, on est à l'aise. Ils se dirent des mots charmants. Quand on y va, on est content. Ils se quittent en s'embrassant. Quand on y va, on est à l'aise. Ils se quittent en s'embrassant. Quand on y va, on est content. Ils se quittent en s'embrassant. Quand on y va, on est à l'aise. Badadia, papa, badoudi, papa, dia, dia, daya, papa.
En s'embrassant, comme bientôt au jour de l'an, nous allons tous nous embrasser. Mais j'espère qu'avec nos enfants, nous nous embrassons très très souvent, pas seulement au Petit Bois Charmant. Eh bien, nous en avons un peu fini avec ton histoire, avec ton questionnement. Et nous allons passer, enfin on a fini, non on n'a pas fini, mais on n'a pas plus de temps. L'émission n'a que 2 heures. Si tu peux survoler l'histoire du label Enfance et musique dans la production pour les enfants, s'il te plaît. Isabelle Caillard sur Radio Libertaire, la voix sans Dieu ni maître de la Fédération anarchiste. Sans Dieu ni maître, ni publicité, ni nationalisme. Des cailloux dans l'engrenage, émission hybride du 28 décembre 2022. À toi Isabelle.
Alors, l'association Enfance et musique a donc été fondée par mon frère Marc Caillard, qui est mon aîné. Il a concrétisé l'ambition de promouvoir la place de l'art et de la culture dans les politiques d'action sociale et familiale en direction de la petite enfance. Les locaux se trouvent au 17 rue Étienne-Marcel à Pantin. Son association est reconnue à l'échelle nationale dans le domaine des pratiques d'éveil culturel et artistique dans une diversité de lieux qui accueillent le jeune enfant et sa famille, comme les crèches, les hôpitaux, les lieux d'accueil des enfants en situation de handicap, par exemple. Cette association est devenue en 40 ans un interlocuteur de référence pour les multiples acteurs de l'éveil artistique et culturel du tout-petit. Elle a plus de 8200 partenaires associatifs, institutions et collectivités territoriales qui lui font confiance depuis sa création. Marc Haillard, par ailleurs, participe à des conférences, des débats, des présentations autour de l'éveil culturel et les tout-petits. L'association Enfance et Musique édite également un magazine en ligne qui est avec abonnement gratuit, qui s'appelle « Territoire d'éveil, la lettre des acteurs de l'éveil culturel et artistique du jeune enfant ». Ce magazine contient des réflexions, des reportages, des points de vue et actualités des initiatives et des politiques d'éveil culturel et artistique rencontrées sur les territoires. Il y a 160 000 destinataires. Parmi les secteurs d'activité de l'association et les ressources, il y a d'une part la formation, d'autre part la création de spectacles vivants, donc la vente de spectacles pour enfants. Il y a un label disque distribué également par le distributeur Omer Le Moqueur. Il y a le Festival Jeunes et Très Jeunes Publics en partenariat avec la ville de Gennevilliers qui a lieu tous les deux ans. Cette année, ce sera du 1er au 12 février 2023. Ce festival permet aussi la rencontre des programmateurs avec les compagnies. Environ une quarantaine de compagnies sont représentées avec, je ne sais pas combien il y a de spectacles, mais peut-être une centaine, hein. Donc ces compagnies qui participent, qui ne sont pas que des compagnies soutenues, qui ne sont pas que des compagnies qui font partie d'Enfance et Musique, mais beaucoup plus large. C'est-à-dire que c'est un partenariat avec la ville de Gennevilliers. Donc Gennevilliers choisit aussi des spectacles pour enfants qui ne sont pas du label Enfance et Musique. Et puis Enfance et Musique fait venir des compagnies dont ils ne s'occupent pas de leurs spectacles. Mais voilà, c'est vraiment une grande retrouvaille de professionnels et en même temps du public, parce que il y a du public évidemment, mais il y a tous les professionnels qui viennent. C'est un grand festival qui permet des rencontres très importantes tous les deux ans. Et ça fait un moment que ça existe, ça fait au moins peut-être 10-15 ans. Oui, 15 ans que ça existe. Alors, le centre de formation, c'est la vocation première d'Enfance et Musique. Il existe une trentaine de modules de stage par an. Donc, des artistes dans différentes disciplines animent et proposent une grande diversité de stages, bien sûr autour de la musique, mais pas seulement. Le centre de formation, donc, ils animent... Alors, parmi les stages, il existe, par exemple, un titre de stage, c'est « Animer un atelier musical ou comptine et jeux de doigts avec les tout-petits ». Un autre titre, ça va être « Construction d'instruments de musique ». Il y a d'ailleurs des recueils qui sont édités à ce propos. Il y a « Jouer de la guitare parmi les enfants » ou un autre titre qui va faire « Rythme et percussion » ou alors « L'éveil du tout-petit » autour du livre, la musique, les arts plastiques. Un autre qui va s'appeler « Imaginer, raconter des histoires au tout-petit ». Il y a « L'éveil corporel à la danse », il y a « L'art du clown », il y a « L'argile et le plâtre », il y a « Accueillir la petite enfance en bibliothèque ». Bon, voilà, il y a une trentaine de propositions de stage chaque année, de titres de stage, hein. Beaucoup plus de stages, mais de titres de stage. Il y a des milliers de stagiaires professionnels de l'enfance et de la culture qui bénéficient de multiples dispositifs de formation adaptés à leur situation pratique. Il y a deux certifications à l'éveil culturel et artistique validées qui permettent aux stagiaires d'être pris en charge par le CPF, le compte personnel de formation. Il y a aussi un diplôme universitaire qui s'appelle le DU, la musique et le tout petit et la musique et l'enfant en situation de handicap, en partenariat avec le CFMI de l'Université François Rabelais de Tours. Donc, Enfance et Musique participe également à la formation des DUMistes, qui seront des professionnels qui se forment pour intervenir dans les lieux de vie de l'enfant, de la naissance à 3 ans, les crèches, les structures d'accueil, les réseaux d'assistantes maternelles. Ces formations s'adressent à des professionnels issus des secteurs artistiques et éducatifs, par exemple les musiciens intervenants, les enseignants, les animateurs, les artistes, ou issus du secteur médico-social, les personnels de santé, éducateurs, personnels de petite enfance, ayant des compétences musicales confirmées. Chaque année, il y a aussi des actions de formation décentralisées, réalisées à la demande de centres. Donc, sur toute la France, Enfance et Musique intervient. Alors, le second domaine, c'est la création et le spectacle vivant. Donc, il y a un collectif d'artistes à Enfance et Musique et des compagnies qui ont rejoint le projet d'Enfance et Musique à partir des années 90. Et donc, le collectif propose au niveau national une offre diversifiée de spectacles pour le très jeune public. Donc, il y a une trentaine de spectacles qui sont diffusés au nom d'Enfance et Musique. Il y a des centaines de représentations programmées dans les lieux d'accueil de la petite enfance, entre autres les bibliothèques et les médiathèques et les scènes culturelles. Il y a aussi une newsletter, spectacle, qui concerne le spectacle, qui est mensuel. Donc aussi, en Enfance et Musique, il y a ce qu'on appelle le réseau. Depuis les années 2000, un regroupement de plus de 93 associations et compagnies de création artistique implantées sur le territoire national, qui sont donc en lien avec Enfance et Musique. Enfance et Musique apporte un accompagnement des projets, des compagnies et des artistes à travers séminaires, rencontres à thème, confrontation des pratiques, mais aussi audits et conseils personnalisés sur les stratégies locales et la conduite des projets artistiques et associatifs. Et le Enfance et Musique a donc un label musical de référence, chansons et comptines et créations. Le distributeur étant Omer Le Moqueur. Le site, c'est www.enfanceetmusique.com. Voilà. Ou alors, on peut trouver label Enfance et Musique, label disque Enfance et Musique. Ou alors aussi Omer Le Moqueur, qui est le distributeur.
Eh bien, merci. Moi, j'ai connu un groupe de musique qui s'appelait Mama Kaya, entre Aubervilliers et le 19e, et qui était sur Enfance et Musique. C'était vraiment très sympa. Bon, ils sont passés à autre chose, c'était il y a longtemps.
Oui, ils ont été distribués par Enfance et Musique. Ah, oui, ils font partie de...
Alors, on continue avec un autre disque signé Isabelle Caillard, qui s'appelle Tout Doux, et toujours avec de très jolies illustrations. Et là, Tout Doux, c'est en 2010, ça a eu le prix de l'Académie Charles Cros. Il y a 19 chansons originales pour les tout-petits et leurs familles. Nous allons tout de suite commencer par Mon Petit Cœur.
Avec toi, mon petit cœur, je partage tant de bonheur.
Tacatompa, pa-pa.
Avec toi, mon petit chaton, je ramasse des marrons. Avec toi, mon petit lapin, je trouve même des pommes de pin.
Des pommes ? Des pommes de pin ?
Avec toi, mon petit cœur, je ramasse tant de fleurs. Avec toi, mon petit cœur, je partage tant de bonheur. Avec toi, mon petit crapaud, on s'en va au bord de l'eau. En cherchant le petit lézard, on se promène au hasard.
Où es-tu, petit lézard ?
Avec toi, mon petit cœur, je ramasse tant de fleurs. Avec toi, mon petit cœur, je ne partage que du bonheur. En allant derrière les dunes, je décrocherai la lune. Pour toi, mon petit poussin, pour que tu n'aies jamais de chagrin. Avec toi, mon petit cœur, je ramasse tant de fleurs. Avec toi, mon petit cœur, je ne décroche que du bonheur. Tu seras vraiment grand, n'oublie donc pas ta maman. Je t'aimerai toujours autant, et ce sera pour longtemps. Avec toi, mon petit cœur, je ramasserai toujours des fleurs. Avec toi, mon petit cœur, je partagerai toujours du bonheur. Toujours des fleurs. Avec toi, mon petit cœur, je partagerai toujours du bonheur. Avec toi, mon petit cœur, je ramasserai toujours des fleurs. Avec toi, mon petit cœur, je partagerai toujours du bonheur.
C'est vraiment la preuve vivante qu'on peut faire des disques qui sont très tendres pour les tout-petits, qui sont écoutables jusqu'à 120 ans, il y a écrit, si on arrive jusque-là. Très tendre et sans être gnangnan, et c'est rythmé. Alors, tu peux nous raconter pourquoi il n'y a pas de livret? Ça commençait à être la crise.
Oui, ben voilà, depuis 2010, je n'ai pas pu faire d'autres albums. C'était un crève-cœur pour moi, puisque c'était le quatrième disque, enfin cinquième avec Enfantille. Et je pouvais enfin faire de la création, c'est-à-dire que je devenais un petit peu connue dans le label. Et donc, je n'utilisais pas que les comptines existantes. Et bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le disque physique se vendait de moins en moins. Et donc, du coup, ils ont voulu faire des économies au niveau du label. Donc, ils ont commencé à dire, on va mettre des livrets qui seront téléchargeables. Et puis, etc., etc. Et petit à petit, ça s'est amenuisé. Enfin, ils ont essayé de faire... Ils ont fait pas mal de livres-disques magnifiques à partir des albums qui existaient pour essayer de vendre dans les librairies. Donc, il y a eu de très, très beaux albums qui ont été faits à partir des livres-disques très, très beaux avec des belles illustrations. Donc, ça a permis quand même pendant un temps aussi que le label puisse continuer à avoir suffisamment de ventes pour pouvoir faire encore des albums. Mais moi, je fais partie presque des dernières aussi, hein, 2010. On n'a pas, y a pas eu d'autres albums. Enfin, je pense que jusqu'en 2015. Et le label a périclité. Hein. Enfin, on trouve tout en vente en ligne sur le site du distributeur au Merlot Le Moqueur. Et on trouve aussi, pour ceux qui veulent écouter sur les plateformes, on trouve tous les albums sur Spotify, etc. On dit gratuit, c'est pas que c'est gratuit, c'est que les gens ils payent des abonnements. Mais ça devient gratuit dans la mesure où finalement les artistes et les labels n'en tirent pas de l'argent suffisant pour pouvoir continuer à faire de la création. Et donc, il n'y a plus de moyens. Donc, moi qui étais dans une belle lancée de création, eh bien, ça s'est arrêté. Donc, j'ai plus envie de faire ce métier, puisque malheureusement, c'est pas que j'avais pas d'imagination, c'est que s'il n'y a pas un retour sur investissement, s'il n'y a pas une vente de disques, on ne peut pas créer. Il fallait gagner ma vie, j'avais 3 enfants. Voilà, donc je me suis tournée vers le spectacle. C'est là que pendant 5 ans, j'ai fait des spectacles pour enfants, puisque j'étais connue dans les crèches, les bibliothèques, tout le monde me connaissait. Donc du coup, j'ai osé, à 53 ans, j'ai osé devenir proposer des spectacles pour enfants. J'en ai fait 3 en 5 ans. Je me suis vraiment donnée à fond. Mais malheureusement, ça ne suffisait pas pour que ma carrière démarre vraiment sérieusement. Donc j'ai finalement continué à enseigner et J'ai eu quand même ce contact avec le public que j'adore aussi d'être sur scène. Donc, ça a été une période très amusante pour moi.
Ta formation de comédienne
Oui, ça revenait. J'avais envie de créer des spectacles. Quoi.
Mmh. Oui, j'avais oublié de remonter mon micro. Je disais que ta formation de comédienne initiale t'a servi.
Et tout à fait, c'est revenu. Je me suis dit, j'ai trop envie de monter sur les planches et puis de chanter directement et de faire chanter, parce qu'il y a aussi le côté animation. Moi, j'aime bien aussi faire chanter les enfants.
Nous allons écouter un dernier titre de ce disque tout doux d'Isabelle Caillard en 2010, prix de l'Académie Charles Cros, qui s'appelle Potiron, Potimarron.
Et c'est des paroles de Chantal Grimm.
Oui, et qui est connue, elle.
Voilà, qui a toute une carrière de chanteuse aussi. Chanteuse vraiment à texte. Et que j'ai connue, moi, à l'âge de 20 ans, parce qu'elle faisait des chansons pour adultes aussi. Et donc, moi, je l'ai accompagnée en tant que violoniste. Et là, je lui ai demandé de faire des textes sur mon album. Donc, moi, j'ai fait quelques titres, mais c'est surtout elle qui a écrit beaucoup les paroles de cet album.
Potiron, Potimarron.
Potimarron, tu as un bouton tout rond qui ressemble à un ballon. T'as des pattes en tire-bouchon. Potiron, potimarron. Potiron, potimarron. Tu pousses, 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 t'allonges comme un géant. Te faufiles, file, file pour chatouiller les enfants. Pousse, pousse, pousse.
pousse, pousse, pour chatouiller les enfants.
Ça pousse, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Ça pousse. Ça pousse.
Citrouille, couleur de rouille, t'as vraiment une drôle de bouille. Mais comment tu te débrouilles avec tes tiges qui s'embrouillent? Citrouille, couleur de rouille. Citrouille, couleur de rouille. Tu pousses, 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 t'allongeant comme un géant. Te faufile, file, file, pour chatouiller les enfants. Pousse, 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 pour chatouiller les enfants.
Ça pousse. Ça pousse. Ça pousse, 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 ça pousse.
Et en virgule, monticule ridicule, monticule ridicule. Tu pousses, 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 t'allongeant comme un géant. Te faufile, file, file, jusqu'aux oreilles des enfants. Tu pousses, 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 t'allongeant comme un géant. Te faufile, file, file, pour aller parler aux enfants. Tu pousses, 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 t'allongeant comme un géant. Te faufile, file, file, pour aller parler aux enfants. Tu pousses, 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 t'allongeant comme un géant. Te faufile, file, file, pour chatouiller les enfants.
Pousse. Ça pousse. Ça pousse. Pousse, 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 pousse.
Et nous allons passer à la troisième partie. Les petits loups du jazz. Isabelle Caillard, peux-tu nous raconter la naissance, les débuts et la politique opiniâtre? C'est un terme que tu avais employé en préparant cette émission. Politique opiniâtre, ça m'a marqué, de l'épopée des petits loups du jazz.
Alors, politique opiniâtre, alors je ne me souviens plus exactement ce que j'ai voulu dire, parce que là, c'est peut-être hors contexte. Je ne sais plus, c'était...
Bon, mais c'est pas grave, oui, mais c'est... ça m'a marqué, oui, parce que je ne l'aurais pas inventé.
Politique opiniâtre, c'est-à-dire, réaliser des chorales pour enfants... qui soit un peu joyeuse et justement que la culture se répande à travers le chant. C'est quelque chose que mon frère Olivier a développé en tant que jazzman. Et il a créé donc les petits loups du jazz dans les années... Alors c'était en 92 et nous organisions des stages pour enfants. Aussi avec ma mère qui finalement est devenue, après instit, elle s'est mise à donner des cours de piano sur le tard et elle organisait avec nous parce qu'on avait une maison à 50 km de Paris et on invitait des enfants deux fois par an pour faire des stages de musique. Et donc mon frère a un peu démarré comme ça ses chorales avec une partie de mes élèves. Et lui, il avait des élèves aussi en piano jazz, il faisait des ateliers de jazz avec des enfants et puis il a monté cette chorale. Donc, il faisait créer des paroles, il créait les paroles avec les enfants à partir de thèmes de standards de jazz. Et donc, son premier album a été donc produit par Enfance et Musique. Et ça a été vraiment pour le label aussi une marque d'une évolution entre... Le label, c'était des comptines. Donc, c'était assez traditionnel, finalement, même si c'était remis au goût du jour avec beaucoup de rythme, avec une qualité instrumentale, etc. Mais Olivier Caillard, il a vraiment apporté la musique de jazz Et c'était pas sûr que ça marche, en fait, puisque c'était un peu moderne. Et en fait, ça a été fulgurant. Son premier album a été vendu, je sais pas, moi. Moi, j'ai vendu à peu près 20 000 albums de chacun de mes albums. Lui, le petit loup du jazz, c'est disque d'or, je crois que c'est 100 000 albums. Donc, c'est énorme. Donc, voilà, il a fait une grande réussite, et à tel point qu'ils ont même fait des concerts vraiment professionnels. Donc, ils ont joué à l'Olympia, ils ont joué au Casino de Paris, là, au Cirque d'Hiver, au Théâtre des Champs-Élysées, à la Salle Pleyel, dans des festivals comme Banlieue Bleue, Coutances, Jazz sous les Pommiers, au Festival du Parc Floral, ouverture des Molières et des Django d'Or en direct à la télévision. Voilà, le tout aux côtés de très bons musiciens qui accompagnaient. Olivier, il faisait des magnifiques arrangements de jazz, et il y avait des super musiciens qui jouaient à ces occasions, parce qu'ils étaient payés par le label pour pouvoir promouvoir le disque.
Moi, j'ai connu les disques, mais j'ai raté les spectacles. Je le regrette beaucoup.
Les spectacles, c'était des enfants, donc on ne pouvait pas les faire tourner. C'était vraiment très ponctuel. Ça, quand je dis tous ces lieux et tout ça, ça a été sur depuis 92. Donc entre 92 et le dernier album, c'est 2013. Donc c'est sur, ça fait 20 ans. Et puis après, il a fait des petits loups du jazz, parce qu'il a déménagé, Olivier. Il est allé vivre à Montpellier. Et donc, il a fait une création des petits loups du jazz à Montpellier. C'était en 2010. Donc là, ça fait 2010. Il a dû faire 10 ans. Maintenant, il a plus sa troupe. À partir du moment où il n'y a plus possibilité de faire des disques, en fait, ça n'avait plus beaucoup de sens, parce qu'il n'y avait plus les moyens. Parce que si on fait juste payer une cotisation aux enfants, ils vont chanter, mais ça va rester le petit concert familial qui n'aura pas beaucoup d'impact. Il n'y aura pas vraiment l'occasion. Donc du coup, Olivier, ça l'a découragé. Et puis il est redevenu pianiste de jazz à Montpellier pour les adultes, quoi. Enfin, tout à fait basique, pianiste de jazz dans des différents groupes. D'ailleurs, ça a été une bascule un peu compliquée, parce que il avait bénéficié de moyens financiers énormes pour pouvoir faire tous ces disques-là qui sont magnifiques. Donc il y a les petits loups du jazz. Il a fait 6 disques qui sont vraiment tamponnés petits loups du jazz. C'est les petits loups du jazz en 92 qui a eu disque d'or. Il y a eu Baby Blues en 95. Il y a eu Le Retour des petits loups en 96, nominé au Django d'Or 96 et aux Victoires de la Musique 97. Quand même, c'était quand même assez important, parce que c'était quand même nominé alors que c'était un groupe d'enfants. Enfin, c'était assez exceptionnel. Je crois qu'il est le seul à avoir eu un truc comme ça.
On va écouter, là, je t'interromps.
Je finis avec la liste des albums. Voilà, La Ferme de Bercagnier en 98. Chanter les petits loups du jazz, il a fait un livret pédagogique qui est avec des accompagnements. Et donc ça, c'est très important pour les gens qui font chanter du petit loup du jazz. Il a fait ce livret. Il y a Le Fiesta en 2004. Et ça, c'est Bossa en 2013.
Alors, nous avons décidé de
le premier.
Les deux premiers. Alors, Les Petits Loups du Jazz, 1992, le disque d'or, le casse-tête.
T'as pas vu mes chaussettes?
Bah non, et moi d'ailleurs j'ai perdu mes lunettes.
Et moi j'ai même perdu ma tête.
T'as regardé
mon petit casque? J'ai perdu mes chaussettes, j'ai perdu mes lunettes.
Sous ma casquette, à quelle casquette?
Il a fallu que je fasse une bêtise technique. Quand je manipule mes disques, les papiers, etc., pour ne pas faire de bruit à l'antenne, je coupe mon micro et j'avais oublié de le remettre. Et c'était donc Les Petits Loups du Jazz, le disque d'or 1992, le casse-tête. Nous avons très peu de temps. Je pense qu'il faudrait une autre émission pour parler des petits loups du jazz. Isabelle, est-ce que tu as 3 secondes et demie pour parler des petits loups du jazz avant ? C'est pas pour moi.
Alors donc, oui, donc cette troupe, c'était vraiment le spectacle. C'était les claquettes sur scène, c'était... voilà, c'était la création des paroles pour les enfants. C'était toujours très, très joyeux. Et très empirique. Voilà, c'était un peu le bazar parfois dans, dans son atelier d'Olivier. Mais c'était toujours finalement très efficace pour le résultat. Et beaucoup d'enthousiasme des parents et des enfants. Donc je crois que c'est vraiment une... Et puis aujourd'hui, il intervient encore dans des conservatoires parce qu'il n'a plus de troupe. Mais tout ce travail qu'il a fait sur 20 ans, bien sûr, plein de gens lui demandent d'intervenir. Il fait des projets sur 1 an. Il va intervenir à Aix-en-Provence pendant 6 mois. Une fois par mois, il va venir. Et puis il va travailler en collaboration avec des profs de conservatoire. Et donc ça continue à se perpétuer.
C'est pas pour moi.
Pour moi.
Les petits loups du jazz.
Alors, les petits loups du jazz, il faut dire aussi que la grande gageure, c'était de plaire à la fois aux enfants et à la fois aux adultes, parce que tous ces morceaux, bon, c'est vrai qu'ils sont longs, parce qu'il y a tout l'aspect jazz, improvisation, des musiciens hors pair qui jouent, voilà. Donc, c'était pas les petites comptines qui durent une minute, quoi. C'était vraiment d'apporter de la qualité et de la musicalité faire découvrir le jazz aux enfants. C'était vraiment très important pour Olivier Caillard et aussi pour le label qui a pris, j'allais dire, du galon aussi avec ce genre de proposition musicale.
Eh bien, nous allons passer au dernier CD. Baby Blues 1995 avec des artistes du monde, la salsa des petits loups. Si je pense qu'on aura, elle dure 6 minutes et demie, mais bon, nous avons encore le temps.
C'est bon pour danser, alors allez-y, pour la danse.
La salsa des petits loups. Alors là, il y a beaucoup d'artistes du monde entier dans ce disque Baby Blues.
Oui, c'était vraiment le projet, c'était sur une année que les enfants puissent rencontrer des artistes espagnols, musique de l'Est, etc. Et donc, flamenco. Voilà, c'était très intéressant pour les enfants, justement, cette ouverture. Donc, ce n'est pas des œuvres des compositions de Olivier Caillard ou bien du jazz. C'était vraiment découvrir d'autres musiques. Et c'était une expérience formidable pour les enfants et musicalement très, très, très intéressant.
Alors, ce disque, je l'utiliserai une autre fois. Il y a Alain Jean-Marie, enfin, il y a plein de gens. Et par contre, le premier titre, c'est d'Olivier Caillard et c'est vraiment un gros tube, la salsa des petits loups. Ça dure 6 minutes et demie. Allez, on va essayer de l'écouter en entier.
tu vas dans ton lit. Quoi encore, j'ai pas le temps, ça n'est vraiment pas le moment. Va dehors, mets tes gants et n'oublie pas tes vêtements. Bah alors, t'es un grand, pense un peu à tes parents. T'es le roi des casse-pieds, tu vois bien que je dois bosser. Écoute-moi, c'est assez. Et puis arrête la télé, réveille-toi, lève ton été encore en train de rêver.
Alors évidemment, il est très important de promouvoir la musique malgré les difficultés du disque aujourd'hui. Donc personnellement, j'ai finalement créé un label depuis 2021. Suite au Covid, c'était très compliqué en plus pour les artistes. Et mes trois enfants sont des musiciens professionnels de jazz. J'ai mon fils Zachary Abraham qui est contrebassiste, ma fille chanteuse Cynthia Abraham et une fille pianiste Clélia Abraham qui compose énormément et qui a d'ailleurs composé la plupart des œuvres qui sont dans l'album Abraham Réunion. Donc j'ai finalement produit l'album Abraham Réunion, l'album de Cynthia Abraham qui s'appelle Unisson et l'album de Clélia Abraham qui s'appelle La Source et qui est en quartet de jazz. Donc voilà, je me suis improvisée finalement productrice, puisque les producteurs c'est très difficile à trouver étant donné que ça ne rapporte plus beaucoup d'argent, et pourtant un album c'est très très significatif de l'aboutissement d'un projet dans sa globalité, c'est-à-dire que quand il y a 10 titres, c'est pas juste un petit titre comme ça au milieu, enfin je sais pas, il y a une conception d'album et comme un spectacle, on conçoit aussi un album, et aujourd'hui il y a beaucoup moins l'objet, et c'est dommage parce que par exemple les enfants ils ont vraiment besoin de ces objets et ils sont encore en vente, hein, les disques d'enfance et musique, faut pas aussi hésiter à continuer, c'est du militantisme aujourd'hui d'acheter des albums et de mettre ça dans les mains des enfants, je trouve que c'est hyper important, c'est comme on met un livre dans les mains d'un enfant, il y a des illustrations, c'est très important qu'il soit autonome pour qu'il puisse choisir les titres, appuyer sur un bouton pour faire démarrer le morceau. Alors ça, les enfants, ils l'ont beaucoup perdu.
Très, très important.
Et c'est très, très important. J'ai oublié de le dire, là, dans l'importance de la musique. C'est aussi l'importance de l'autonomie pour l'écoute de la musique. Les enfants sont presque acculturés tellement ils n'ont pas accès eux-mêmes. Avant, c'était les cassettes. Ils mettaient ça dans des appareils en plastique. Ils se débrouillaient, ils appuyaient sur les boutons. Aujourd'hui, on ne peut pas leur confier des ordinateurs, quoi. Alors, c'est le téléphone avec des conditions d'écoute minables parce qu'il n'y a pas de son, il n'y a pas les basses. Alors que, voilà, plus personne n'a des chaînes. Enfin, c'est très, très compliqué. Donc,
là,
on n'a pas de temps.
On a fini en arrière-son. Il y avait la fin de la salsa des petits loups du jazz où tes enfants chantaient.
Voilà.
Et il y avait des enfants jusqu'à l'adolescence,
voilà,
14-15 ans.
La troupe des petits loups, c'était entre l'âge de 5 ans jusqu'à 15 ans. Ils avaient tous leur rôle, hein. C'était assez époustouflant comment les enfants peuvent faire des solos, chanter des solos écrits. Il y avait un très gros boulot derrière.
Voilà, technique là, c'était
incroyable. C'était très technique, ouais.
Je passerai les autres morceaux plus tard, je les diffuserai plus tard. Et ton site, c'est Isabelle Caillard sur Blogspot.
Blogspot. Là, on y trouve donc mon travail pédagogique, puisque je continue à donner des cours de violon. N'hésitez pas à venir vers moi. Je serai ravie d'enseigner la musique à vos enfants.
On trouve tes coordonnées là-dessus. Voilà. Isabelle Caillard, Blogspot, le violon. Eh bien,
le violon d'Ingres, ça s'appelle mon association.
Avant de nous quitter pour place à Davout et au Club Ferré, Abraham Réunion, donc tu as parlé tout à l'heure, le disque de 2020, c'est un disque que j'avais et j'ai découvert qu'il y avait un lien entre toi et c'était tes enfants. 15 ans intro.
Non, 15 ans moins. 15 ans moins.
15 ans, oui. Bon,
15 ans moins.
Bon, pas l'intro. Juste. Oui, c'est pas l'intro. Oui,
c'est le suivant, en fait.
Voilà. Et ça dure 3 minutes 12.
Voilà, donc c'est le trio Abraham, mes trois enfants, plus le batteur Arnaud Dolmen, qui a composé exceptionnellement, c'est lui qui a composé ce morceau-là. Et justement, il parle de la famille et tout ce que la famille a apporté à mes trois enfants au niveau de la musique.
Alors, la prochaine émission, ça sera mercredi 4 janvier, l'émission Flemmardise numéro 78. Il y aura une lecture de Marion Zimmer Bradley, La vague montante, et un disque de jazz, Pierrick Pedron. Ah. Au revoir Isabelle et merci.
Eh bien, c'était un plaisir pour moi de pouvoir partager. Et pour moi, c'est du militantisme aussi de pouvoir dire, continuez à acheter des beaux disques à vos enfants et ne vous laissez pas prendre par le système.
Allez, au revoir.
Au revoir, Florence. Merci.
Nous lever en musique. Adam, cassons-nous.
Abraham, réunion.
En harmonie, et fais vos mélodies. Nous goûterons le jazz, merengue classique, toute calte et musique. Papa, nous pianiste, maman, nous violoniste. Yoga fait musique, et fait nous fait musique. Nous étudions. Des jours nous grands, nous qu'à vivre des musiques, nous qu'à voyager.